Et merci à vous de commencer ce 11 novembre avec nous. Soyez les bienvenus, il est 8h. Lydia est avec nous pour votre journal. L'un des clairons de l'armistice de 1918 a été retrouvé dans notre région.
Dans un village d'Eure-et-Loire, le clairon du soldat Delaluc qui a sonné la fin des combats sur le front des Ardennes, 101 ans après l'armistice. On vous raconte cette histoire. On va parler aussi de la réhabilitation des soldats fusillés en 1917 comme cet ouvrier de la Ferté-Saint-Aubin, René-Louis Brunet, qui avait appelé ses camarades à désobéir. Emmanuel Macron va présider la traditionnelle cérémonie sous l'Arc de Triomphe tout à l'heure, et puis cet après-midi, le chef de l'État inaugurera un monument en hommage aux militaires français morts au combat depuis les années 60 en opérations extérieures. En sport, les rugbymen du RCO battus, ils sont ce matin derniers de leur poule avec un entraîneur un peu groggy. Et puis Marc, il fait froid pour votre anniversaire.
Oui, c'est ça comme d'habitude, hein, de toute façon. Hein. De la grisaille et de la pluie pour ce matin, avec peut-être quelques éclaircies cet après-midi pour les températures. On a 4-5 degrés en ce moment. En moyenne.
Et en ce 11 novembre, on célèbre l'anniversaire de l'armistice de 1918 qui a mis un fin à la Première Guerre mondiale. L'un des symboles de cet armistice, c'est Beauceron. Il s'agit du clairon d'Octave Delaluc, un poilu qui sonna la fin des combats sur le front des Ardennes, François Guéroufoy.
Le 11 novembre 1918 à 11h, Octave Delaluc sonne l'armistice à Vrigne-Meuse dans les Ardennes. Cet ouvrier agricole de 29 ans, né à Intréville, un petit village d'Eure-et-Loire près de Toury, avait emmené au front son propre clairon, clairon qu'on peut voir désormais au mémorial de l'armistice à Compiègne. Dominique Valenbois est l'un des responsables du musée.
Voir revenir le clairon du soldat Delaluc au musée, c'était important pour nous. Des clairons qui ont sonné l'armistice, il y en a eu beaucoup dans tous les régiments, mais il faut savoir l'authenticité. Là, on en a la preuve. On en a la preuve, c'était Delaluc qui avait son clairon. On est sûr que c'est un clairon qui a sonné l'armistice.
Ce clairon n'a en fait été retrouvé officiellement qu'il y a 4 ans par des historiens de Chartres dans un grenier à Gomerville, un autre village beauceron. L'instrument a quelques bosselures, il est un peu endommagé, mais pas tant que ça, souligne Dominique Valenbois.
Oh, il est en bon état, il est en état d'usage, comme on dit. Vous savez, les soldats, ils avaient autre chose à faire qu'à soigner leur clairon, et donc il a été utilisé. C'est un clairon qui a fait la guerre.
Hasard de l'histoire, Octave Delaluc appartenait au 415e régiment d'infanterie, le même que celui d'Augustin Trébuchon, considéré comme le dernier soldat mort au combat lors de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918 à 10h50.
Reportage que vous retrouvez sur francebleu.fr.
101 ans plus tard, Lydie, certains noms de poilus ne figurent pas sur les monuments aux morts des communes dont ils étaient originaires.
Oui, alors parfois il s'agit d'oubli, mais parfois aussi il s'agit d'anciens soldats fusillés en 1917 lors des fameuses mutineries contre le commandement militaire. C'est le cas de René-Louis Brunet, ouvrier chaudronnier originaire de la Ferté-Saint-Denis. Saint-Aubin, mobilisé en 1914 alors qu'il vivait à Orléans. Il a été traduit devant un conseil de guerre, condamné à mort et fusillé pour avoir appelé ses camarades à désobéir aux ordres et à ne pas combattre. Georges Joumas, un historien orléanais qu'on vient d'entendre, vient de retracer son histoire dans un livre. Il parle d'un soldat courageux et valeureux, pas du tout un lâche ni un traître. Patrick Brunet, lui, habite Marcilly-en-Villette et il se bat pour que le nom de René-Georges Brunet figure sur ce monument aux morts de la Ferté Saint-Aubin. Il espère que ce sera possible l'an prochain.
Pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais je pense que la parution du livre de Monsieur Georges Joumas va pouvoir faire évoluer sa réflexion dans un sens qui, je l'espère, permettra de montrer que il ne s'agit en aucun cas d'une demande partisane, puisque si on regarde dans le passé récent, des hommes aussi différents que Lionel Jospin en 1998 à Craonne et Nicolas Sarkozy à Verdun en 2008, ont plaidé pour ces réhabilitations au cas par cas. Et donc, une association fertésienne de défense du patrimoine a permis de mettre en évidence que plusieurs noms de poilus originaires de la Ferté ne figurent pas sur le monument aux morts actuel. Et voilà, donc on pourrait imaginer que ces poilus oubliés, ainsi que René-Louis Brunet, figurent sur soit le monument mort, soit une stèle, qu'importe, mais qu'au moins leur mémoire soit honorée.
Et puis à l'occasion donc des commémorations du 11 novembre, le chef de l'État inaugurera à Paris cet après-midi un monument pour les 549 militaires morts pour la France en opérations extérieures depuis 1963. Avant cela, Emmanuel Macron présidera ce matin la cérémonie sous l'Arc de Triomphe. Il va raviver, comme le veut la tradition, la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Une femme de 21 ans incarcérée pour des faits de violence conjugale à Orléans vendredi dernier, elle avait frappé son conjoint de deux coups de couteau. Une enquête était déjà en cours. Elle l'avait déjà bousculé violemment il y a quelques mois. Elle sera jugée cette semaine en comparution immédiate.
Question Lydie, pourra-t-on sortir du glyphosate au 1er janvier 2021 comme c'est normalement prévu?
Ce sera difficile en l'état actuel des choses, d'après un rapport parlementaire qui presse le gouvernement de clarifier un certain nombre de points, Mathieu Mondoloni.
Car il y a encore beaucoup de questions et trop peu de réponses, disent les parlementaires dans ce rapport. Ils demandent d'abord au gouvernement de préciser un certain nombre de points, comme par exemple les cultures qui bénéficieront d'une dérogation d'utilisation du glyphosate en 2021. Il serait inconscient, prévient le rapport, d'attendre le 31 décembre 2020 pour dire qui devra obligatoirement cesser d'utiliser le très contesté herbicide. Il en va de la survie de nombreuses exploitations qui vont avoir besoin de temps pour s'adapter, ajoutent les parlementaires. Ils parlent notamment d'un coût substantiel qui devra être assumé, frais de main-d'œuvre supplémentaires, consommation de carburant multipliée par 3 ou 4, nouveaux investissements en matériel, une transition coûteuse qui nécessite là encore plus de clarté. Enfin, ce rapport s'interroge aussi sur l'opacité qui règne encore autour de l'utilisation du glyphosate en France. Malgré les demandes répétées des parlementaires, personne n'a pu leur donner de chiffres précis, ce qui leur fait craindre que l'usage du glyphosate n'ait pas diminué ces dernières années.
En Espagne, les élections législatives, les quatrièmes en 4 ans, marquées par la poussée de l'extrême droite, le premier ministre socialiste sortant, Pedro Sanchez, remporte le scrutin, mais perd plusieurs sièges de députés. En Bolivie, la chute du président Evo Morales après 3 semaines de contestation populaire. Il a fini par démissionner. Des troubles ont aussitôt éclaté. De nombreux autobus incendiés dans les rues de la capitale, ainsi que des domiciles de personnalités.
En sport, Lydie, en rugby, grosse déception pour le RCO.
Battu hier après-midi au Monté, 29 à 30 par Courbevoie, 7e journée de Fédéral 2. Le RCO est dernier de sa poule avec un entraîneur, Jimmy Belloué, un peu sonné.
On a du mal pour l'instant à analyser ce qui s'est passé. On a fait 20 très bonnes premières minutes où on les a étouffés, on a bien bougé le ballon, on a été plutôt efficace. Et puis à partir du moment où ils sont revenus dans la partie, on a senti que cette équipe avait pris une énorme confiance et commencé un petit peu à gagner tous les contacts. On avait l'impression qu'ils avaient plus envie, qu'ils allaient plus vite, qu'ils tapaient plus fort et que nous, eh bien, on faisait les choses par à coup ou à moitié. Donc face à une équipe qui a fait un bon début de saison, qui a pris confiance et qui avait rien à perdre, et nous pas mal de pression, forcément on a senti que ça s'est tendu au fur et à mesure quoi. On a eu du mal à bouger le ballon et même quand on a réussi à le faire, on les a peu mis en danger. En défense, on a raté trop de plaquages, ils ont avancé trop facilement et donc on a défendu vraiment comme une équipe pas de ce niveau quoi. Donc quand on perd à la maison un match qu'on doit absolument gagner, ça fait mal à la tête.
Oui, ça fait mal à la tête. Prochain match du RCO, ce sera dimanche contre Chartres. Et puis Cocorico pour les Françaises en tennis. Elles ont remporté la Fed Cup, la Coupe Davis des femmes. C'était hier en Australie. Caroline Garcia, Kristina Mladenovic et les autres. C'est la troisième fois qu'elles décrochent le joli saladier d'argent après 1997 et 2003.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu Orléans est sur